Chapitre 5. Le décor est sans surprise, mais je ne suis pas dans une fiction dont je pourrais m'extraire en zappant. Derrière un imposant bureau de style lourdeau se tient le notaire. Cheveux poivre et sel, grand, même assis, costume bleu passé de mode, mais impeccable. Face à lui, 12 personnes installées en arc de cercle. 8 femmes, 4 hommes. Tous les participants tournent la tête vers moi exactement en même temps. Un film d'horreur. Différents âges, une fille et un garçon sont même plus jeunes que moi. Plusieurs sont habillés de noir comme pour signifier que ce rendez-vous joue les prolongations des obsèques. Avec mon blouson citrouille, mon pull gris à torsade et mon jean bordeaux, je suis complètement à côté de la plaque. Félicitations, Amandine. Disqualifiée dès la première manche. Les individus qui composent cette assemblée disparate partagent au moins un point commun. Tous me dévisagent avec des regards remplis d'animosité, sauf peut-être un. Je ne les ai pourtant jamais rencontrés. Plus une chaise de libre. Il est évident qu'ils ne voulaient pas de moi. C'est une première. Je n'ai jamais été détestée à ce point. Belle unanimité. Je suis fixée par 12 personnes qui me rejettent sans ambiguïté, un record. Ces gens savent-ils quelque chose à mon sujet que j'ignore? J'espère vraiment qu'il y a erreur sur la personne. Ce serait mieux pour ma santé mentale. Chacun de ces visages me témoigne mépris, voire dégoût, et si la relative neutralité du jeune homme qui semble moins virulent à mon égard me fait l'effet d'une bouée en plein naufrage, les éclairs de répulsion que je lis dans les yeux de sa voisine en noir sont autant de torpilles. Drôlement contente d'avoir posé une journée. La vague de haine est telle que je chancelle. Je me retourne, à la fois dans un réflexe de repli défensif et pour chercher la sortie de secours. La femme qui m'a réceptionnée me coupe cependant la retraite en me tendant une chaise. Maître Janzer m'invite à prendre place. Mademoiselle Aubertin, je présume. La convocation spécifie à 10 heures précises. En temps normal, j'aurais répliqué que venant de l'autre bout du pays et n'ayant que 3 minutes de retard, le commentaire me paraissait un poil superfétatoire, mais là... Bienvenue, ajoute-t-il. Bienvenue? Sérieux? Il ne s'est pas rendu compte de ce que je viens de me prendre en arrivant. Franchement, son bienvenu, il peut se le tailler en pointe et s'en faire un petit chapeau. Je m'assieds sans pipe et mot, plus du tout envie de rire. Les regards pèsent sur moi, réprobation et colère. Je serre les poings, je contracte les mâchoires et je rentre les épaules. Position d'atterrissage d'urgence. Je suis l'accusé qui s'apprête à entendre la sentence. Le notaire m'explique. Vous n'avez rien manqué d'important. Nous venions simplement de vérifier les états civils. Puis-je vous demander une pièce d'identité? Je me cabre légèrement. Il insiste. C'est la loi. Je lui tends mon passeport. Ça devient une habitude en ce moment. Il l'ouvre et vérifie scrupuleusement. Mademoiselle Amandine Sophie Estelle Aubertin, née le 6 octobre. Il s'interrompt et m'adresse un clin d'œil qui se veut charmeur. Par galanterie, je ne précise pas l'année de naissance des dames. Par pitié. Ce brave homme va me faire regretter la lecture que ce maniaque de Florian avait faite du même document. Dans l'assistance, je perçois au moins 2 soupirs d'impatience agacée. Le notaire n'en tient aucun compte et continue à déclamer mon état civil. Devant ces gens inconnus qui ne me veulent aucun bien, je vis cela comme une humiliante mise à nu. Toute ma personne est soudain réduite à ces données brutes et déshumanisées. « Elle n'a rien à faire ici !» lâche brusquement la femme endeuillée aux yeux lance-torpilles. L'homme de loi l'arrête d'un geste serein mais sans appel. Chère madame, je suis le garant de la bonne conduite de cette succession et mademoiselle Aubertin a toute sa place parmi nous aujourd'hui. Nous ne sommes pas réunis pour juger de la pertinence très subjective de sentiments personnels, mais pour nous conformer aux dernières volontés d'un disparu auquel nous devons tous le plus profond respect. La pertinence des sentiments personnels? Que veut-il dire? Il pivote vers moi. Savez-vous qui était monsieur Christophe François Olivier Bélanger, le défunt? Absolument pas. Vous voyez bien, insiste la femme. Elle ne sait même pas qui c'est. Elle n'a pas à être là. Le notaire réplique d'un ton moins cordial. Madame, si vous interrompez encore la procédure, je me verrai dans l'obligation de vous demander de sortir. Est-ce clair? Elle se tait à contre-cœur. Je vous ai dit que j'étais un oiseau migrateur. Mais j'ai changé. Là, tout de suite, je voudrais être une baleine. Avec un trou au sommet de la tête pour laisser s'échapper la pression. Parce que je suis en ébullition à l'intérieur. Un petit jet vers le plafond mouluré pour décompresser me ferait le plus grand bien. Maître Janzer reprend le cours de son exposé. Nous sommes donc rassemblés pour la lecture du testament de Monsieur Christophe Bellanger selon un acte authentifié dûment établi en notre étude. D'une voix monocorde, en faisant parfois l'impasse sur quelques mots qu'il doit juger inutiles, il lit sans passion le chapelet de clauses légales et les préambules. Les participants, concentrés sur ces paroles au sein desquelles ils guettent sans doute le moindre indice les concernant, détournent enfin leur foudre de ma personne, ce qui me permet de reprendre mon souffle en attendant leur prochaine livraison d'antipathie. Je les observe discrètement. La famille du mort, donc. Qui était sa femme? Je parie pour le lance-torpille. Sans doute flanqué de ses deux enfants, dont le fils, je suppose, doit avoir une petite vingtaine et semble le seul à ne pas être à cran sur ce qui va se dire. Lui m'a regardé comme un être humain. Pendant que Maître Janzer déroule sa litanie, certains me lancent des œillades hostiles. Tous paraissent n'attendre qu'une chose, l'annonce de la répartition des biens, en s'y préparant comme pour une mêlée de rugby dans laquelle personne ne se fera de cadeau. Conformément aux dernières volontés du défunt, je vais à présent vous préciser les attributions qu'il laisse en héritage. Il tourne la page en prenant son temps. Les 12 sont au taquet, prêts à bondir. À mon ami et associé Stéphane Latour, je lègue la moitié de mes parts dans notre entreprise avec pour instruction de tout mettre en œuvre pour faciliter sa pérennité. J'identifie l'homme concerné à sa réaction. Il semble soulagé. Lui n'est pas en noir. La femme qui me déteste a soudain l'air de lui en vouloir beaucoup, à lui aussi. Peut-être a-t-il obtenu ce qu'elle convoitait. L'énumération se poursuit. Des appartements locatifs, des comptes, des titres, un portefeuille assez conséquent de participation dans diverses entreprises. Chaque annonce fait réagir l'assistance, et même si la plupart tentent de masquer leurs sentiments, de nombreux symptômes les trahissent. N'ayant aucun lien avec le défunt et strictement rien à faire de son patrimoine, j'observe la scène avec un détachement qui autorise l'analyse. Monsieur Bellanger avait brillamment réussi. Ceux qui lui ont survécu, trop occupés à se jeter sur le grain qu'on leur donne à picorer, ne se soucient plus de moi. Je suis le témoin transparent d'une scène riche d'enseignements sur la nature humaine. J'ai peut-être bien fait de venir, finalement. À force de les entendre nommer et de les voir manifester leurs états d'âme, je reconstitue peu à peu l'arbre généalogique du patriarche disparu. Deux remarques me viennent. Il n'était pas si vieux que ça, et il était manifestement bizarrement entouré. Je crois que son fils ne s'attendait pas à récupérer une somme si importante. Sa fille, par contre, espérait visiblement plus. Le fait qu'ils empochent autant semble d'ailleurs énerver leur mère, qui, du coup, en veut à deux personnes supplémentaires. Apprendre qu'elle conserve la jouissance de la villa où elle vivait avec feu son époux ne paraît pas l'apaiser. Nul besoin de la connaître pour deviner qu'elle se sent flouée chaque fois qu'une part échoue à quelqu'un d'autre. Être veuve semble être pour elle un métier comme un autre, un job commercial très concurrentiel dans lequel se faire manger des parts de marché l'ulcère. Suivent quelques œuvres, principalement des sculptures, puis une voiture de collection sur laquelle, à l'évidence, plusieurs avaient des vues. Je me sens de mieux en mieux. Je ne suis plus la cible des réflexions désobligeantes. Le notaire tourne la dernière page, se racle la gorge et conclut. Pour finir, je lègue la cabane aux écureuils et tout ce qu'elle contient à ma fille naturelle, Amandine Aubertin, afin que malgré tout nous puissions partager quelque chose. Que vient-il de dire? À ma fille naturelle? La cabane aux écureuils? À en juger par les réactions stupéfaites et outrées, Cette cabane à écureuils ne doit pas être une simple mangeoire pour petits animaux mignons. On ne s'excite pas à ce point pour un accessoire de jardin. Quant à l'autre mention qui me définit comme sa fille naturelle, la fissure qu'elle est en train d'ouvrir dans ma pauvre cervelle s'avère déjà plus large que le Grand Canyon. Je n'écoute plus. Je suis prostrée. Je sens bien que la séance s'achève dans le chaos et que tout le monde y va de son commentaire sur un ton souvent agressif, mais je ne parviens pas à réagir. Je viens d'exploser en vol. Plus d'air dans les poumons, incapable de reprendre pied dans la réalité. Je suis enfermée à double tour au fond de moi-même, en train d'essayer de comprendre ce qu'impliquent ces trois mots qui viennent de m'engloutir comme une avalanche. Ma fille naturelle. Le lance-torpille déboule devant moi et me jette. Si vous aviez un peu d'honneur, vous renonceriez de vous-même. Rendez ce qui ne vous appartient pas. Laissez notre famille tranquille. Au chagrin de la perte de Christophe ne doit pas s'ajouter l'infamie d'un scandale injuste. Sa voix me parvient avec de l'écho. Elle parle bien, mais elle a vraiment une sale gueule de hyène. L'aigreur déforme ses traits. Une autre voix s'ajoute à ses aboiements. Je n'ai même pas la force de tourner la tête pour voir qui vomit son ressentiment. Vous ne vous en sortirez pas comme ça, soyez-en sûrs. La cabane aux écureuils est à nous. Le notaire a contourné son bureau et s'interpose entre la meute et moi. Il fait rempart de son corps, sans parvenir à endiguer le flot de récrimination. Vous n'avez pas honte de vous pointer comme ça? Vous n'étiez rien pour lui, vous ne l'avez même jamais vu. Rendez ce qui ne vous appartient pas. Vous ne l'emporterez pas au paradis. Amandine est absente. Laissez un message après le bip. Maître Jean de Serre les repousse. Il tonne pour le principe. S'il vous plaît, laissez cette jeune femme tranquille. Songez à ce que le disparu aurait pensé de votre comportement. Il n'est plus là et il nous laisse avec un sacré problème. Je ne sais pas qui a braillé ça, mais sur ce coup-là, je suis d'accord. Toujours assise, sous le choc, j'arrive simplement à murmurer « Je n'ai pas demandé à être là ». Évidemment, comme souvent quand on dit quelque chose d'important, personne n'écoute. Je voudrais pleurer, mais rien ne vient. Avec l'aide de son assistante, le notaire évacue tout le monde vers la sortie et revient vers moi. « Je suis navrée, mademoiselle Aubertin. Je dois vous prier de sortir aussi. Mais s'il vous plaît, restez. Je souhaite vous parler. » Je ne comprends pas. Je le fixe, perdu. Vous me demandez de partir, mais vous voulez que je reste? Vous devez quitter mon bureau, c'est le seul moyen d'acter formellement la fin de ce rendez-vous. Si vous restiez seul avec moi sans être ressorti, ils pourraient arguer que la succession s'éclose sans eux et à leur préjudice. Vous faites un métier compliqué, maître. Il n'y a pas de vie simple, mademoiselle. Vous le savez mieux que personne depuis quelques minutes.